Alors, de retour dans l'émission Géopolis, où nous parlons aujourd'hui de la Géorgie. Alors, pour justement en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Régis Janté. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un vrai plaisir pour moi.
Merci beaucoup. Alors, vous connaissez très très bien le Caucase et notamment la Géorgie parce que vous y vivez depuis 20 ans. Vous y êtes notamment correspondant pour RFI ou encore Le Figaro. Alors, la Géorgie, on le sait, a une vie politique plutôt agitée. Hein, c'est presque historique, mais elle a encore connu des convulsions assez importantes ces derniers mois, marquées notamment par le retour assez théâtralisé. Hein, c'est la marque du personnage de Mikhaïl Saakachvili, qui avait été président de 2004 à 2013, hein, si mes souvenirs sont bons. Il avait ensuite eu une carrière assez tumultueuse, là aussi, en Ukraine. Il est de retour en Géorgie. Est-ce qu'il a pris le pays par surprise ?
En quelque sorte, il y avait une blague qui courait à Tbilissi ces derniers mois, enfin depuis un an, parce que depuis qu'il était en Ukraine, donc depuis 8 ans qu'il était en exil, je crois qu'il avait annoncé 17 fois qu'il allait revenir pour reprendre le pouvoir, etc. Et donc ça devenait un peu une blague, parce qu'on disait qu'il ne reviendrait pas. Et donc le matin du 1er octobre, je crois, où il a posté des vidéos sur Facebook où il était apparemment à Batoumi. Effectivement, c'était plutôt une surprise, sachant qu'on savait tous, et lui, il savait aussi très bien qu'il serait très probablement arrêté. Alors, c'était pas le plan, il voulait pas se faire arrêter, il espérait, c'était la veille du premier tour des élections locales qui revêtaient une grande importance pour ce que ça disait du pays, parce qu'il y a une vraie crainte dans toute une partie de la population, dans l'opposition, etc., que Ivanishvili, l'oligarque qui dirige le pays, est en train de tout confisquer et que bientôt on ne pourra plus avoir de prise sur le moment électoral, quoi. Donc Saakachvili est revenu, il espérait faire une grande manif le lendemain, genre que le peuple porterait, etc. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, et je crois qu'il a un peu surestimé aussi le soutien populaire dont il bénéficie. Mais oui, c'était plutôt une surprise, et d'ailleurs les gens du gouvernement, notamment le président du parti, Irakli Kobaridze, disaient l'après-midi même, en scandant ces mots comme ça, je vous assure que Mikhaïl Saakachvili n'est pas dans le pays. Et puis deux heures après, on apprenait qu'il avait été arrêté en banlieue de Tbilissi, quoi. Donc c'était un peu une surprise pour beaucoup de monde et peu, il y avait peu de personnes sans doute dans la confidence et voilà. Et c'est venu bouleverser, c'est peut-être pas le bon mot parce que le vote aurait été plus ou moins le même s'il n'était pas venu. Mais enfin, ça a boosté et les anti-Saakachvili et les pros. Et c'est venu remettre la lumière sur cette élection effectivement cruciale pour l'avenir, disons, de la démocratie. Je dis juste un mot sur ce que vous dites, ce que tu dis. Lorsque tu parles, c'est un pays agité politiquement, etc. Moi, j'ai tendance à le voir comme un processus démocratique. C'est jamais soft, c'est jamais... Et même nous, en Europe, on sait même que les processus démocratiques, en d'autres temps, il y a plusieurs siècles, mais ont été des processus sanglants, avec des centaines de milliers de morts. Et qu'après tout, ce qui se passe en Géorgie, c'est aussi... bien sûr que c'est pas la droite, la ligne droite vers la démocratie, c'est compliqué, il y a plein d'obstacles, il y a plein de gens qui font des mauvaises choses pour des bonnes raisons et des bonnes choses pour des mauvaises raisons, etc. Mais il me semble que c'est un processus démocratique. Et je le vois encore à l'œuvre. Et c'est un pays qui est en crise depuis 3 ans, permanente, des crises qui naissent tous les unes des autres. Mais à chaque fois, notamment les 3 élections qu'il y a eu, la présidentielle de 2019, les parlementaires de 2020 et les locales cette année de 2021, à chaque fois, au premier tour, on sent une population qui envoie des messages au gouvernement en disant « vous ne créez pas d'emplois », etc. Et donc, qui vote plutôt pour l'opposition, sans forcément d'enthousiasme, sans attendre le sauveur. Et donc, je vois, moi, une vraie tendance démocratique.
Alors, on va parler hein, de ces élections, des perspectives que ça ouvre. Mais un petit mot sur, quand même, Mikhaïl Saakachvili, qui était parti, quand même, depuis 8 ans. Il était parti, mais il n'a jamais cessé d'être, quand même, présent.
Oui, et absolument. Et il me semble que c'est une partie du problème, d'ailleurs. Donc il a des chefs d'accusation, actuellement son procès d'ailleurs a commencé en Géorgie, qui sont sans doute des chefs d'accusation qui, ici en Belgique, en France, etc., pourraient faire qu'un président se retrouve devant la justice, et on a vu des cas, etc., pourquoi pas, et en même temps on voit très bien que les raisons pour lesquelles il est traîné devant la justice sont rien à voir avec la justice, c'est de la politique. Il s'agit de neutraliser un adversaire qui est férocement anti-russe, l'homme qui règne sur la Géorgie et qui fait tout pour que la justice ne soit pas indépendante. Par exemple, c'est l'oligarque Budzina Ivanishvili qui est évidemment tenu par la Russie, parce que c'est un gros oligarque, quelqu'un qui était au cœur du système russe, et il n'est pas indépendant de la Russie. Je ne dis pas que c'est une marionnette de la Russie, c'est un peu plus subtil que ça, mais il est vraiment tenu par la Russie, quoi. Donc Saakachvili, voilà, est parti, il est revenu à la fois pour, je crois, vraiment secouer le cocotier, créer un électrochoc dans l'électorat en se disant, mais chaque élection, Ivanishvili scelle encore plus, contrôle encore plus le système électoral, et donc c'est plus possible, et si cette élection là n'est pas un brin démocratique, ça va être un vrai problème. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que finalement l'opposition n'a remporté qu'une mairie, alors que objectivement, quand on regarde les résultats du premier tour, on pense qu'ils auraient dû en gagner beaucoup plus, mais il y a eu toute une technologie mise en place pour le deuxième tour. Après, Saakachvili revient aussi pour lui, on sent qu'il perd pied, il a jamais quitté la politique. Ce qui fait qu'il a sans doute pas aidé à l'émergence de nouveaux leaders dans son parti. Ça a été compliqué et il est très critiqué dans son propre parti d'ailleurs. Et ça explique aussi une raison, en partie, les divisions et le fait qu'un groupe est parti et a créé son propre mouvement à l'écart, quoi. Donc la personnalité de Saakachvili, c'est problématique. J'ai pas la réponse pour ça. À la fois, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est une bête politique, qui a une vision pour son pays, etc., qui se bat sincèrement pour son pays. J'ai pas de doute. Et en Ukraine, il a continué le même travail contre la Russie, l'impérialisme, etc. Il est vraiment sur ces choses-là, avec sa manière de faire à lui, mais j'ai pas de doute sur sa sincérité et sur la continuité de son combat. D'un autre côté, quand il revient comme ça dans le pays, il vampirise en quelque sorte toute la scène politique, il la personnalise, là où on pourrait, nous, en bons démocrates occidentaux, européens, espérer plus d'institutionnalisation du pouvoir. Peut-être que le pays est encore pas tout à fait mûr pour ça, que ça prend un peu de temps. En tout cas, il y a un débat, et bon, peut-être qu'il est bon pour la démocratie géorgienne que quelqu'un soit venu comme ça, parce que ça électrise, mais ça a aussi son versant qui est de trop personnaliser le pouvoir et de le polariser aussi, peut-être.
Alors, j'ai janté, il y a beaucoup de débats, il y a une grosse vitalité de la société civile. Par contre, vous disiez en même temps que les élections, au fur et à mesure, depuis 3-4 ans, elles sont à chaque fois de plus en plus scellées, de plus en plus cadenassées. Est-ce qu'on parle encore tout à fait d'une démocratie, ou alors vraiment on est en train de
trop pédaler ? Il y a un vrai glissement, effectivement. Je vois que ça inquiète beaucoup les fonctionnaires ici. Il y a eu toute une médiation, d'ailleurs, dans le cadre des crises, puisque après les législatives de l'an dernier, toute l'opposition, tout parti confondu, ont refusé de siéger. Et donc, ça faisait quand même mauvais effet. Il y a eu une médiation de Charles Michel, le président du Conseil européen, qui a été difficile, où le pouvoir géorgien n'a pas hésité même à humilier. J'ai vraiment pas peur d'employer ce mot. Je crois qu'il est juste Charles Michel. Donc, c'est quand même très étonnant d'une toute petite Géorgie qui dépend beaucoup de l'Europe. Il y a eu plus de, je crois, 700 millions d'euros versés pour la stabilité économique dans le cadre du Covid, etc. Et dans le même temps, on se permet d'envoyer des rebuffades claires et qui font penser que le pays aussi, non seulement connaît une dérive... Alors les rebuffades sont liées au fait que Charles Michel demandait dans le cadre de la discussion qu'il y ait une réforme de la justice, parce que ça c'est une question clé dont on parle pas assez dans les médias, parce que c'est pas très facile de parler d'une réforme de la justice, c'est pas très imagé, etc. Mais c'est ça qui fait qu'une élection va pouvoir être propre ou pas, c'est ça qui fait qu'une opposition ou des médias d'opposition vont pouvoir être tranquilles ou pas. Donc les questions de réforme de justice, faut vraiment prêter énormément d'attention à ça. Et on voit bien que le pouvoir n'a pas envie aujourd'hui, quoi. Et il y a cette dérive donc non démocratique, et les trois dernières élections sont clairement des élections où il y a un gros problème, plus gros même encore que ce qui est dit par les émissions d'observation, qui sont obligées un peu d'aplanir leur vocabulaire, etc. Mais moi, j'ai pu voir des rapports envoyés par des observateurs long terme, de ce que eux ont envoyé au centre, puis après, donc on a le rapport un peu édulcoré, et là c'est quand même un autre ton, voilà. Et par ailleurs, il y a aussi une dérive par rapport à la Russie, enfin. Je pense qu'il y a des événements très importants aujourd'hui qui montrent qu'il y a beaucoup de concessions qui sont faites à la Russie, beaucoup de par exemple, il y a eu une contre-manifestation, disons LGBT, le 5 juillet dernier, complètement tolérée par le pouvoir, voire quasi encouragée, quand on voit les déclarations officielles, hein, tout simplement. et le peu de police présente ce jour-là, il y a eu beaucoup de violence, 50 journalistes ont été frappés, les LGBT ne sont pas sortis, ils ont annulé leur manifestation, leur pride, leur marche. Mais et moi, j'ai été frappé pour bien connaître les principaux mouvements, les 4-5 mouvements qui étaient dans la rue, qui ont organisé cette journée, qui sont soit directement de l'église orthodoxe, soit qui sont des mouvements conservateurs autour, et tous ont des liens très marqués, prouvés parfois, y compris financiers, avec la Russie au plus haut niveau, au niveau du Kremlin, etc. Et donc, ça, on sent que c'est aussi une dérive du pouvoir. Il y a plein de signaux qui sont envoyés qui montrent qu'il y a de la complaisance. Alors, est-ce que c'est juste par faiblesse pour calmer la Russie ou est-ce qu'il y a un agenda beaucoup plus pro-russe, que j'ai plutôt tendance à penser. Et ça risque de créer beaucoup de tensions à l'avenir dans le pays. Pour ça, parce que l'humeur du pays n'est pas pro-russe, c'est vraiment au niveau de certains groupes d'élite. Et puis, pour ce que je disais au départ, je crois qu'il y a une humeur démocratique dans ce pays et que ce n'est pas la direction que prend le pouvoir actuel. Comme on peut le voir dans d'autres pays de la région, en Ukraine, en Arménie, en Moldavie aussi, les oligarques, souvent, qui sont à la manœuvre, n'ont pas le même agenda, comme on dit aujourd'hui, que leur population. Eux sont souvent d'ailleurs beaucoup plus dans du compromis, notamment avec la Russie, qui n'est pas sur un agenda démocratique. Donc je pense que dans les années qui viennent, on aura beaucoup de combats, encore beaucoup de tensions, comme on en a observé en Bélarus aussi. C'est vraiment une tendance entre la société qui est liée au développement de l'information, au développement des sociétés, à la globalisation. Donc des gens mieux informés qui acceptent de moins en moins d'être dirigés par des élites corrompues, etc. Et puis des tendances géopolitiques, notamment animées par la Russie, mais pas seulement, qui poussent plutôt une partie des dirigeants à aller à l'encontre des peuples. Donc je crois qu'on va avoir beaucoup de combats démocratiques et pour la gouvernance dans les années à venir dans toute cette région, y compris en Géorgie, bien sûr.
Et Régis Janté, vous nous avez évidemment fait mention de Bidzina Ivanichvili. Alors, on a souvent l'image de quelqu'un qui tire les ficelles de derrière depuis finalement 8 ans. Est-ce que ça correspond exactement à la réalité? Est-ce qu'il serait très particulièrement malsain, quand même?
C'est absolument vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le Premier ministre, Irakli Garibashvili, qui est un francophone, je connais bien, quelqu'un qui a été le factotum, l'homme qui gérait notamment la fondation Kartou Bank, la banque Kartou qui est un peu le bras humanitaire, charité de ce que fait Ivanichvili en Géorgie depuis une quinzaine d'années. Il a beaucoup aidé notamment les artistes de l'époque soviétique, les retraités qui vivaient avec des retraites de misère. Il les a soutenus, il y a quelques projets comme ça. Il y a un projet d'université, l'école française aussi, etc.
Et tout ça qui l'aide à le faire élire, d'ailleurs, assez régulièrement.
Qui l'aide aussi à le faire élire, à sans doute avoir aussi une certaine position dans le monde diplomatique vis-à-vis de... C'est un citoyen français. Irakli Garibashvili était l'homme qui gérait ça très bien, je crois, avec efficacité, mais ça reste un petit fonctionnaire, ce qu'a dit un petit administrateur de ses biens, parce que ce n'est pas l'essentiel de la fortune d'Ivanichvili non plus. Et Ivanichvili l'a dit d'ailleurs récemment dans une vidéo qu'on voit circuler où il dit quelque chose comme ça, où il dit que ce n'est pas quelqu'un d'important. Et c'est quelqu'un qui est le Premier ministre, et sans être insultant à son égard, mais c'est quelqu'un qui n'a pas la carrure pour ça. Il n'a pas fait les études, il n'a pas l'expérience politique, etc. Donc il est vraiment là pour Ivanichvili, pour pouvoir contrôler la politique géorgienne. Même chose au Parlement, on a des gens qui lui sont complètement dévolus. On sait qu'il y a un contrôle très fort sur les services de renseignement, sur la justice et le parquet général. Donc c'est pas un mensonge et c'est un vrai problème, parce que la question qui se posait un peu à l'époque, à la fin de l'époque Saakachvili, parce que lui se pensait comme un révolutionnaire jusqu'à la fin, donc il avait pas très envie de donner le pouvoir à d'autres parce que légitimité révolutionnaire, etc. Mais n'empêche que Saakachvili est quand même parti par une élection, il n'y a pas eu de violence.
Après une cohabitation en plus.
Après une cohabitation difficile, mais oui.
Difficile mais inédite dans la région.
Mais donc il avait perdu déjà l'élection parlementaire de 2012 et ça a été accepté. Alors, il n'avait peut-être pas le choix, etc. N'empêche que ça a été une des premières, peut-être presque la première dans l'ancien espace soviétique, mis à part les pays baltes, de vraie transition démocratique, élection perdue, je quitte le pouvoir. Et là, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas possible. On voit bien qu'Ivanichvili fait tout pour empêcher cela. L'élection présidentielle de 2000, euh, 19 de Mme Zourabichvili. Au premier tour, elle a manifestement 10 points de retard sur deux candidats qui décident d'unir leur voix. Et connaissant, on connaît tous très bien cet électorat, donc on sait très bien qu'ils auraient voté contre Yves Zourabichvili. Moins contre elle, à vrai dire, que contre le gouvernement. Elle n'existait presque pas, en fait, dans la vie politique géorgienne. Et au deuxième tour, dans l'entre-deux-tours, Ivanichvili, pour vous dire combien il est puissant et continuer la réponse à la question, a racheté 600 000 prêts. Des petits prêts, parce que la Géorgie reste très pauvre, des prêts de 300-400 euros parce qu'il faut remplacer le moteur de la voiture et qu'on fait du taxi, parce qu'il y a quelqu'un qui a une appendicite dans la famille, bon, des choses comme ça. Des prêts à 17%, donc que les gens mettent plusieurs années à rembourser souvent. Et lui a proposé dans l'entre-deux-tours de racheter ces 600 000 prêts. Imaginez que trois personnes par prêt soient heureuses de cette décision, papa, maman, le fils, le beau-frère, etc., et partenaire en affaires, ça fait 1,8 million de personnes. L'électorat, à l'époque, est quelque chose comme 2,5 millions.
Presque ni plus ni moins que de l'achat de voix, quand même.
Oui, exactement. Exactement. Et ça pèse, évidemment, parce que les Géorgiens... comme ça reste un... Il y a aussi des vertus, enfin des vertus. Donc, sous ce gouvernement, on a vu apparaître encore deux télévisions d'opposition et trois des quatre, cinq télévisions les plus importantes sont des télévisions d'opposition. Donc, aussi, les Géorgiens ont accès à de l'information, etc. Donc, il y a aussi ça, hein, en Géorgie. Mais effectivement, les gens ont très bien compris que c'était de l'achat de voix. Et d'ailleurs, à peu près 10% de ces 1,8 million a décidé d'aller voter au deuxième tour. Et ça a fait que Mme Zourabichvili est présidente. Donc, aujourd'hui, quand elle se pose en médiateur dans le cadre des crises, évidemment, elle est très peu crédible. Elle a fait des efforts, peut-être, mais elle manque de crédibilité, quoi. Donc voilà, c'est ça l'ambiance du pays. Et d'autres crises se sont nourries de cela. Et à chaque fois, on sent que dans le deuxième tour, comme on vient de le voir, c'est des technologies, comme on dit, un peu diverses. Il y a de l'achat de voix ou de l'achat de voix pour ne pas aller voter, des promesses de trouver un emploi. On voit l'augmentation du nombre de fonctionnaires, donc de gens qui dépendent du budget, etc. Donc des choses qu'on voit aussi en Russie, notamment. C'est pas simplement une technique, c'est pas du bourrage d'urne en général. C'est un peu plus complexe que ça aujourd'hui. Et par exemple, on va aussi un peu décourager une partie de l'électorat d'aller voter, tout simplement créant une ambiance électorale un peu passive, etc. Et on sait que ce sont des gens qui pourraient voter plutôt, avoir plutôt un vote de protestation. Donc voilà, il y a toutes ces techniques qui sont assez fines en réalité et redoutablement efficaces, mais pas démocratiques.
Alors, monsieur Gentil, on peut pas faire un tour d'horizon de ce qui se passe en Géorgie sans évoquer même de façon rapide les deux provinces perdues de la Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie. C'est quoi là? Est-ce qu'il y a une actualité en rapport avec ces... Est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce que ça avance un tantinet?
Très peu. De toute façon, ces conflits sont créés par la Russie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tensions, mais de là à ce qu'il y a du séparatisme après une guerre. Bon, ça, c'est au début des années 90, des années 90, mais ça se fait pas par hasard, quoi. Donc, c'est des conflits artificiels, comme c'est arrivé dans le Donbass, en Transnistrie aussi, en Moldavie, qui sont faits justement pour durer. C'est-à-dire que quand des pays du voisinage de la Russie leur sont, vus de Russie, vus de Moscou, considérés comme infidèles, non loyaux, pro-occidentaux, eh bien, on les punit avec ces conflits et qui ça représente d'énormes leviers de pression et diplomatique et sécuritaire sur le terrain, etc. Et c'est pour ça que, pas par hasard, que la guerre en 2008 a éclaté à partir de l'une de ces deux provinces, disons, séparatistes. Donc ça reste, ça n'avance pas diplomatiquement. Il y a tous les mois, c'était cette semaine, il y avait un round de négociations à Genève, comme il y en a depuis 2008, mais ça ne permet d'avancer sur rien. Ça permet de régler deux, trois petits problèmes frontaliers, d'échange de prisonniers s'il y a un problème ou des choses comme ça. Mais sinon, rien du tout. Et sont deux régions qui sont dans le giron de Moscou et qui vivent leur vie telle que Moscou veut bien les laisser la vivre plus ou moins avec leur petite crise. En ce moment, il y a une petite crise en Abkhazie, mais c'est des choses assez banales en réalité et sans grand intérêt, quoi. Et que Moscou les laisse se développer sans mettre beaucoup d'argent. Donc ce sont des régions qui vivotent plutôt en réalité et où il se passe pas grand chose. Si vous allez à Sourumi, je suis partenaire depuis un petit moment, mais vous avez encore plein de maisons qui sont détruites au centre-ville, des belles maisons, parfois art déco. On aimerait en faire un bel habitat ou un hôtel ou une guest house, mais non, et ça reste une ruine au milieu de la ville.
Et les Géorgiens, ils se sont résignés à...
Et les Géorgiens, depuis 2008, donc ce qui se passe avec la guerre de 2000... Donc, les conflits séparatistes sont en 91-93, deux conflits qui vont faire quelque chose comme une douzaine de milliers de morts en tout, donc quelque chose d'assez irrémédiable. le tout soutenu par la Russie. Ensuite, c'était pendant jusqu'à la guerre de 2008, c'était des petites montées de tension, etc. Et les Géorgiens rêvaient encore, effectivement, de notamment de l'Abkhazie, qui est vraiment le pays de cocagne pour les Géorgiens, le pays où on mange des mandarines, où on est au bord de la mer. C'est le farniente qu'on aime bien en Géorgie.
C'est beau.
C'est très beau. Il y a tout cet art de vivre, le farniente, qu'on aime bien en Géorgie, qu'on aimait bien, qui est assez culturel. Et puis, il y a eu la guerre de 2008 pour des grandes raisons géopolitiques qui dépassent. C'est pas simplement une guerre entre la Russie et la Géorgie ou c'était entre la Russie et l'Occident. Et c'est la suite de, vous avez peut-être suivi l'actualité de ces derniers jours, des tensions autour de l'Ukraine. C'est la même problématique, développement de l'OTAN. Est-ce qu'il y a une sphère privilégiée ou pas de la Russie dans son précaré au Caucase, en Ukraine, etc. C'est la même problématique qui est porteuse de beaucoup de conflits potentiels, etc. On en connaîtra peut-être d'autres, hélas. Et donc, au terme de cette guerre éclair de 2008, la Russie décide de reconnaître l'Abkhazie, l'Ossétie. Presque personne ne les a suivis, sinon le Vanuatu, c'est de la diplomatie du portefeuille, ça coûte 50 millions de dollars, je crois. Le Guatemala, Nicaragua,
Venezuela.
Voilà, donc ouais. qui sont un peu de gesticulation politique. Je crois que la Syrie a dû le faire depuis. Et c'est très délicat. Aucune ex-république soviétique, ni le Bélarus, ni l'Arménie, ni le Kazakhstan n'ont voulu se lancer là-dedans. C'est trop dangereux parce que eux-mêmes craignent que ça puisse leur arriver. Mais pour les Géorgiens, ça a marqué effectivement sans doute une rupture en se disant, bah voilà, cette fois c'est perdu. Ces deux régions. Pardon, ces deux régions sont des boulets et nous, on ne va pas pouvoir se développer. Donc, j'ai l'impression que ça a fait son chemin. Puis, le temps passe aussi. Donc, les gens, donc c'est des conflits qui datent. Les Géorgiens n'y mettent plus les pieds depuis, par exemple, en Abkhazie, depuis 93, depuis septembre 93. Donc, ça fait 28 ans. Donc aujourd'hui, on sent que...
Il n'y a même plus vraiment d'échanges informels, rien.
Voilà, quasiment pas. Donc, les gens qu'on voit arriver en Géorgie, des hauts fonctionnaires, des jeunes gens, des trentenaires, pour eux, ça ne veut rien dire. Donc voilà, ça va être oublié et ça forcera peut-être d'ailleurs la Géorgie, enfin ça aidera peut-être la Géorgie à franchir aussi d'autres pas et peut-être que si aujourd'hui il n'y aura pas, mais hypothèse d'école, s'il y avait une perspective d'adhésion à l'Europe et à l'OTAN, mais où on disait il faut que vous oubliez formellement en signant un papier comme quoi vous renoncez ad vitam aeternam à l'Abkhazie-Ossétie, peut-être que c'est un débat qui pourrait se créer, que ce serait quelque chose qui pourrait être signé. Je suis pas sûr de ce que je dis, parce que c'est toujours délicat pour un pays de renoncer à son territoire, à une partie de son territoire, surtout lorsque l'Abkhazie est quand même chargée de beaucoup d'émotions, comme je le disais. Mais je crois qu'on y vient petit à petit, effectivement. C'est des régions qui sont oubliées, quoi.
Merci Régis Janté. Un dernier sujet sur lequel je voudrais vous proposer de revenir, c'est évidemment la guerre qu'il y a eu dans les deux pays voisins de la Géorgie au Caucase, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le contrôle de la région du Karabakh. Quelle résonance ça a pu avoir et quelles conséquences même ça a pu avoir en Géorgie ?
Ouais, c'était très important parce que chacun a compris avec notamment la déclaration de paix, disons, du 9 novembre 2020, donc qui va mettre fin au conflit, suite à une médiation de la Russie, que ça va sans doute affecter profondément toute la géopolitique de la région. La Russie s'est déployée encore davantage dans le Caucase du Sud. Il y a officiellement 1960 hommes, je crois, mais en réalité, on est plutôt dans les 3 ou 4 000 Russes déployés au Karabakh lui-même. Par ailleurs, il y a dans l'article 9 de cette déclaration, sur 9 articles, le dernier est consacré à l'ouverture des voies de communication, réouverture des chemins de fer qui sont tous éclatés dans la région, et notamment pour reconnecter l'Arménie avec la Russie via l'Azerbaïdjan, par exemple, et avec l'Iran aussi, et puis réouverture de routes. Ce sont des choses très très complexes, qu'on parle de corridors. Avec les corridors, on sait dans l'histoire que ce sont des choses complexes et parce qu'il s'agit d'accorder une certaine, peut-être pas souveraineté, mais un droit de passage parfois à un pays qui est un pays ennemi. Enfin, ce sont des choses très 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 lourdes. Donc on ne sait pas encore où ça va aller, mais on a l'impression que ça va vraiment avancer. Pour la Russie, c'est très important. C'est aussi un moyen de contrôle non militaire quasiment pour la Russie d'être présent, d'être l'arbitre du jeu et donc de garder son influence géopolitique dans toute cette région qui est aux portes de l'Iran quand même. Enfin, c'est Et aux portes du Moyen-Orient, aux portes de la Turquie. Donc le Caucase, pour ça, reste stratégique. Et pour la Géorgie, eh bien, si ces routes devaient s'ouvrir, on se dit peut-être que finalement, nous, notre utilité géopolitique est aussi celle d'être un corridor ou un couloir de transport entre la Turquie et donc l'Europe, d'une certaine manière, et l'Asie centrale, notre rôle va diminuer, on sera encore un peu moins important peut-être, même si, encore une fois, on est loin d'avoir ces routes ouvertes dans le sud du Caucase, à travers le Karabakh ou à la frontière de l'Iran. Mais par exemple, l'Arménie, qui aujourd'hui dépend complètement de la Géorgie, comme on l'a vu en 2008, en trois jours, il n'y avait plus d'essence, parce que beaucoup vient de Russie. Pour l'Arménie, si elle devait pouvoir se passer de la Géorgie, ça veut dire que la Géorgie perd un peu de ses leviers vis-à-vis de l'Arménie. Ça veut peut-être dire que les régions arméniennes, qui parfois sont un peu irrédentistes, pourraient être un peu plus revendicatrices. Bref, la Géorgie pourrait perdre un peu de poids politique. Je ne pense pas que ce serait une révolution, que tout d'un coup, plus aucun camion ne passerait par la Géorgie, parce que tout passerait entre la Turquie, la région exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et ensuite pouvant filer éventuellement vers l'Asie centrale ou dans l'autre sens, qui est une région turcique aussi, le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Bon, ça, c'est un peu de l'ordre du fantasme encore aujourd'hui, mais les Géorgiens suivent ça de très près. Ils ont très bien suivi le conflit. Moi, les informations que j'ai montrent que très vite, les responsables de la sécurité, les hauts responsables politiques ont vu la guerre venir dès le mois de juillet-août 2020. Ils comprenaient qu'il y aurait un conflit. Ils ont su mettre de côté leurs émotions. Par exemple, le fait que la Géorgie avait plutôt une position pro-azerbaïdjanaise, parce que comme elle, la Géorgie comme l'Azerbaïdjan ont été victimes, si je puis dire, du séparatisme. Donc il y avait plutôt une affinité, mais en même temps, ça ne voulait pas dire que ces dirigeants-là étaient contre Pachinian, le premier ministre arménien, qui comprenait aussi que c'est un démocrate, c'est plutôt quelqu'un qui est porté par une vague démocratique, et que la chute d'un Pachinian, c'est encore une démocratie de moins dans la région, entre une Turquie qui devient plus en plus autoritaire, la Russie, l'Iran. Donc je crois que les Géorgiens avaient pour ça assez bien perçu. Je parle des responsables de l'État, plus que des responsables politiques en tant que tels, mais peut-être qu'on peut... on pourrait mettre dans l'eau aussi des responsables politiques, le premier ministre de l'époque, etc., qui ont assez bien vu tout ça.
Je vous remercie très chaleureusement, monsieur Régis Janté, d'être venu nous parler de la Géorgie, nous proposer un tour d'horizon sur la situation du pays. Vous êtes bienvenu quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Merci.
Et c'est toujours un plaisir de venir vous parler.